Bienvenue, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le mois de mars. Nous sommes aujourd'hui au CNT, Conseil national de la transition, pour rencontrer une grande dame du monde politique guinéen. Vous vous appelez. Bonjour madame, merci de nous recevoir.
Bonjour madame, je suis Fingy Camara, conseillère nationale, vice-présidente de la commission Constitution, lois organiques, administration publique et organisation judiciaire au Conseil national de la transition.
Merci de nous recevoir. Bon mois de la mars, bon mois de mars à vous déjà.
Merci.
Alors, pour vous connaître, quel est votre parcours?
Alors, c'est toujours une question.
Il est énorme, mais un peu de mots.
Un peu de mots, voilà. C'est une question très amusante pour moi, mais à la fois passionnante et importante. Alors, mon parcours, il est simple. Je suis née à Fria, où j'ai passé mon enfance et j'y ai passé aussi mes études donc primaires et secondaires. Ensuite, je suis venue à Conakry. Voilà, je suis venue à Conakry à l'université. Mmh. Et c'est là où j'ai donc choisi les sciences juridiques et aussi les langues étrangères. Voilà. Et voilà, et au fil des années, ben me voici après plusieurs expériences. Je me retrouve aujourd'hui, parce que j'ai été désignée pour cela, au Conseil national de la transition comme conseillère nationale et désignée par un grand parti politique, voilà, qui est le Parti de l'Espoir pour le Développement National.
Le PDN, le parti de M. Lansana Kouyaté.
Dirigé par M. Lansana Kouyaté.
Présidé par
voilà.
M. Lansana
Exactement.
Kouyaté, qu'on aime bien, hein, parce
Merci.
Qu'il fait la promotion des
Merci.
Femmes. On le voyait toujours avec son épouse dans tous les déplacements.
Et ça n'a pas changé.
Ça interprété partout, mais nous, on aime bien ça, les hommes féministes qui font de la masculinité positive, on va le dire. Donc, c'est tout à son honneur. Mm. Alors, dites-nous, comment vous êtes retrouvée dans l'arène politique, un monde qui n'est pas très favorable quand même aux femmes, qui ne fait pas beaucoup de cadeaux.
C'est ça.
Il y a peu dans ce domaine et qui arrive au stade où vous êtes.
Au stade où je suis. Alors, justement...
Pourquoi pas la médecine, la santé, le
journalisme? Oui. Alors, mon parcours ou mon arrivée en politique est tout simplement exceptionnelle ou a été exceptionnelle parce que il vous souviendra qu'en 2007, avec l'arrivée du gouvernement de consensus, puisque j'étais déjà activiste, alors j'ai été très vite repérée par l'épouse de Monsieur le Premier ministre d'alors, et nous avons travaillé à la fondation. Et à la fondation Asnavi, Association Nature et Vie, je crois que ce fut l'occasion pour moi de m'affirmer. Comme quoi, voilà, vous le disiez tantôt, il faut vraiment donner l'opportunité aux femmes et aux filles pour qu'elles s'affirment et qu'elles excellent. Donc, je dirais que donc, moi, mon histoire politique est partie de là, puisqu'après donc, son départ de la primature, le parti est né. Alors, disons que je fais partie de ceux qui ont mis le parti au monde.
Ah, vous n'êtes pas arrivé à trouver le parti,
non,
vous êtes
non.
membre fondateur
Exactement.
Du PDN. C'est important de le préciser,
tout
vous n'êtes
fait.
Pas arrivé quand tout allait bien.
Non, du tout,
d'accord,
du tout.
D'accord.
Je dirais que tout s'est bien passé jusqu'à la naissance. C'est vrai que le président Lansana Kouyaté était très réticent par rapport à cette histoire de politique, parce que c'est quand même un stéréotype. C'est souvent dit que quand de grands dirigeants quittent le pouvoir, ils sont souvent tentés par la politique. Mais je dirais, lui particulièrement, il a reçu beaucoup de pression parce que beaucoup le voulaient justement à la tête de ce pays. Et je crois que beaucoup le veulent encore à la tête de ce pays. Et le parti est né. Le parti est né le 18 mars 2009. Voilà, donc moi j'étais là. Et tout est parti de là, puisque j'ai été là. Personne, ou je dirais la première personne qu'il a contactée pour occuper son secrétariat particulier. Je crois que mon destin avec le PEDN s'est dessiné ce jour. Je suis restée donc dans les organes, je suis restée plutôt au cabinet, parce qu'il avait besoin d'une personne de confiance, il avait besoin d'une personne engagée et dévouée. Je crois, avec l'assistance de Dieu et des bonnes personnes, j'ai réussi à honorer cet engagement. J'ai réussi donc à rester là et à répondre à ses attentes. Ensuite, lui-même un jour me dit, « Fingy, tu connais cette maison mieux que tout le monde. » pourquoi tu n'irais pas dans les organes? J'étais un peu réticente et tout, parce que j'avoue que à la fac, toi tu le sais, j'avais de bonnes notes en Sciences Po, mais rien ne me prédestinait à aller en politique.
D'accord.
Donc c'était un peu la jeune fille déterminée à quand même aller.
Vous vouliez faire quoi à part la politique?
Eh bien, à part la politique...
Parce que vous vous êtes retrouvée dedans et vous avez aimé apparemment.
Oui, je me suis... Disons que ce n'est pas forcément un hasard. Mm-hmm. Il était tracé. Je n'ai fait que suivre mon... Ouvrir les bras.
Mais en tant que petite fille, vous vouliez devenir quoi?
Mon rêve de petite fille... Alors, mon rêve de petite fille, je crois que j'étais très tentée par la communication. Parce qu'après le lycée, j'ai fait l'art scénique, j'ai fait du théâtre, j'ai fait un peu de cinéma, amateur certes, d'accord, mais j'aimais être vue. Vu devant les grands écrans, vu en parlant, puisque j'ai eu la chance de maîtriser un peu le français et de le manier.
D'accord.
Donc beaucoup disaient, beaucoup trouvaient que j'avais une belle diction et tout laissait croire, tout laissait croire que j'étais destinée à une carrière de communicatrice, genre journaliste communicatrice, voilà. Et moi, ça me plaisait. Voilà, je n'avais pas forcément un métier phare. Je me disais, là où je veux aller, c'est là où je serai heureuse. Et le métier que je ferai avec amour. Et voilà.
D'accord. Alors, le déclic, il est venu où pour faire de la politique? Parce qu'on retrouve peu de femmes là où vous êtes.
Oui. Alors, c'est quand, pendant les protestations, souvent, on a compris que... C'est pas sexiste hein, ce que je dis, excusez-moi, j'assume tous mes propos, mais on défend pas beaucoup, ou je trouve qu'on défendait beaucoup moins les femmes dans les plaidoyers, et que toujours leur voix passait en arrière-plan. Et je me suis dit, puisque je lisais, j'aimais lire, ou j'aime lire encore, je me suis dit, qui mieux que moi-même pourrait exprimer ce que je pense? Ou ce que j'ai envie de faire passer comme message. J'ai dit, alors, puisque j'ai été longtemps activiste dans la société civile, avec les ONG, d'accord, et j'ai eu le temps et l'occasion de le prouver, de prouver ce que je voudrais pour des jeunes filles et jeunes femmes de mon âge ou plus âgées, alors je crois que je suis aujourd'hui à un niveau où je peux aider. Je peux aider soit dans les actions à pousser des femmes, à venir à la politique, à venir comprendre ce que c'est que la gestion de la cité.
Parce que la plupart du temps, les femmes fuient la politique, les partis politiques. Et c'est là que les décisions se prennent,
tout à fait,
malheureusement, pour
tout
celles
à fait
qui n'aiment pas la politique.
Et je dirais que c'est par méconnaissance, c'est justement dans ça, dans cette démarche, nous nous impliquons pour faire comprendre, même à celles qui sont réticentes ou celles qui ont peur de se lancer en politique, qu'il n'y a pas un voyage aussi beau et exaltant. Tous les jours, nous pratiquons la politique. Tous les jours, c'est ce que je disais la dernière fois. Sans s'en rendre compte, nous parlons de politique alimentaire, nous parlons de politique sanitaire,
politique
environnementale, politique économique. Toutes les politiques sont discutées. Mais de quelle politique ne voulons-nous pas?
C'est la bonne question.
Finalement.
C'est la bonne question.
Or, policies, comme on le dit dans sa définition étymologique, c'est la gestion de la cité.
De la cité, d'accord.
Et on ne peut rien faire, on doit commencer par là, avec dans une bonne organisation de la cité et sa gestion quotidienne pour aspirer à un développement.
Madame Fingy Camara, conseillère au CNT, vice-présidente de la commission de loi, nous parlons du mois de la femme. Alors, on a l'habitude de voir les femmes qui chantent, qui dansent dans les partis politiques. Mais vous avez refusé cela. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à toutes ces femmes qui continuent à chanter, à danser, à voter pour les hommes, alors qu'on peut vraiment penser à une femme à la tête de ce pays un jour? Deux questions.
Alors, je vais peut-être...
Ça
me fait sourire parce que j'aime danser.
Ce n'est pas mauvais, c'est notre culture. Mais pourquoi passer tout son temps à chanter, à danser?
Exactement.
C'est comme le 8 mars, vous faites que chanter et danser.
Tout de suite, j'ai esquissé quelques pas de danse devant
vous.
Bien sûr.
Voilà. Il ne faut pas que tout s'arrête, se limite à là.
Exactement. Je suis d'accord. Il est arrivé à la naissance d'un mouvement politique dont... si vous voulez, je préfère taire le nom par respect pour vous-même, où à sa naissance, j'ai dit, qu'aujourd'hui, je ne danserai pas. J'ai dit, j'ai longtemps dansé, j'ai longtemps chanté, j'aime danser. Et c'est notre culture. J'en suis fière. J'aime avoir des pas de danse. J'aime les sortes, même si je ne sais pas bien danser. Mais quand vous voulez protester contre une chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, je ne pense pas que les danses ou les chants soient les mieux indiqués. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'instrumentalisation, on va prendre, puisqu'ils le disent ainsi, la femme ou les femmes sont souvent utilisées, excusez-moi du terme, comme bétail politique. Elles grossissent les rangs, elles mobilisent, et quand c'est nécessaire surtout, on leur demande de s'occuper des services pendant les assemblées générales, de s'occuper...
Elles ne sont jamais où les décisions se prennent.
Se prennent à cause de plusieurs raisons aussi. Parce que les décisions, faudrait-il les prendre à temps? Qu'est-ce qu'on appelle à temps? Puisque la femme est amenée à assumer un autre rôle après son activité politique, c'est-à-dire celle familiale, il faut donc donner un temps raisonnable et juste, je dirais juste, à la femme d'assumer sa fonction politique ou d'assumer son engagement politique dans un horaire bien reparti pour pouvoir s'attaquer à l'autre horaire, parce que nous sommes à la fois partout et tous les jours. Donc, ces femmes, sans savoir pourquoi elles viennent danser, elles pensent avec l'engouement, avec, je dirais, la bonne foi, qu'en venant grossir les rangs d'un parti politique, en chantant, en dansant, elles font de l'animation politique. Mais tout ne devrait pas s'arrêter là. C'est à nous autres de leur rappeler que justement, après avoir dansé, après avoir transpiré, que l'heure arrive, il arrive l'heure où il faut s'asseoir et se dire, oui, j'ai dansé, j'ai chanté, après, je gagne quoi?
Il faut se poser cette question.
Cette question, après. C'est mes pas de danse et mon chant, où est-ce qu'ils vont me mener? Dans le développement de mon pays,
d'accord,
dans le développement de mon quartier, de ma commune, de ma cité, où est-ce que ça va me mener? Quel impact ça va avoir sur le changement et qualitatif de la cité?
De mon pays. Alors,
de mon pays.
Les élections arrivent, on est pratiquement à la fin de cette émission. Justement, qu'est-ce que les femmes devraient faire à part chanter et danser pour qu'elles soient représentatives? Pourquoi pas une femme candidate à la présidentielle, c'est déjà passé. Quel est le message que vous avez aujourd'hui pour les femmes dans ce sens-là?
Mon message, il est tout simple. J'ai toujours dit que vouloir mettre...
C'est facile d'être une femme en politique.
C'est jamais facile pour... Rien n'est jamais facile pour une femme.
Mais particulièrement en politique.
Particulièrement parce qu'on pense que c'est plus compliqué là. Vous avez d'autres secteurs où c'est encore plus compliqué. Mais puisque ces secteurs des femmes... Aller dans l'armée. Aller dans l'armée. N'est pas militaire, n'est pas gendarme qui le veut. C'est un processus, c'est toute une série d'activités, de disciplines. Peut-être qu'on ne vous demandera même pas en politique. Mais mon message, c'est que on ne peut pas mettre 52% de la population d'une nation en marche. Le faire
et prétendre à un
développement durable et serein, et même paisible.
C'est pas possible.
C'est pas possible. En le faisant, vous faites du tort à plus de la moitié de la population. Donc moi, le message que j'ai à passer, j'ai eu à le passer tout le temps, on a nos aînés, nos mamans qui ont été candidates. Donc c'est de pouvoir tirer les leçons. Les femmes devraient savoir raison garder, tirer les leçons, nous asseoir et nous demander qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. En nous posant des questions, on trouvera forcément des solutions et des réponses. Nous pourrons les apporter à ces questions. Donc en faisant déjà le diagnostic de ce qui va et de ce qui ne va pas, nous tirons beaucoup d'enseignements, beaucoup d'utilité à la voie ou à la prochaine voie à mener. Moi, je dirais aux femmes de s'engager.
Déjà, pas peur de la politique.
Non, je dirais qu'il n'y a rien de méchant. On dit que c'est un monde peut-être cruel. Non, ce n'est pas la politique qui est mauvaise.
On estime qu'on ne fait pas de cadeau aux femmes.
Ce sont plutôt des personnes perverses qui viennent diminuer l'autre sexe en politique. Parce que vous avez, je prends l'exemple de mon leader, c'est un monsieur élégant et charmant, vous le savez. Il a toujours prôné l'émancipation de la femme, à commencer par son épouse. Quoique, comme on dit, quoique beaucoup d'interprétations en ont découlé, mais ce qui fait encore sa fierté ou notre fierté, c'est qu'il l'assume avec beaucoup d'honneur.
Et il y a peu qui assument cette posture.
Et peu l'assument par complexe, je dirais par complexe. Allez dans... Parce que vous avez, je suis sûre que vous êtes musulmane ou chrétienne, mais même nos religions prônent le respect et l'amour envers la femme, envers la jeune fille. Notre prophète, paix et salut sur lui, a toujours aimé ses épouses. Sa plus petite épouse, vous le savez, le disait, Maman Aïcha, que le prophète aimait s'amuser avec lui à certains moments. Parfois, elle-même se demandait, est-ce que c'est vraiment de lui? Est-ce que c'est lui? Donc, il faut que les hommes, on l'a toujours dit ici, nous avons aussi la chance d'avoir des collègues très, très compréhensifs et très engagés sur la question de la femme. C'est le lieu pour moi de les remercier. C'est le lieu de les féliciter pendant ce mois de la femme pour tous les efforts qu'ils sont en train de faire pour nous aider quand même à faire bouger les lignes. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes au environ 30% au Conseil national de la transition. Mais sans des hommes engagés, nous serons toujours mis à minorité. Donc, le président du Conseil national de la transition, ce sont nos partenaires et de vrais. Donc, le président, dans tous ses discours et même dans ses actes qu'il est en train de poser aujourd'hui, on est en train d'assister à une vraie révolution en faveur des actions que mènent les femmes pour qu'elles puissent s'affirmer, que ce soit en politique, que ce soit dans la société civile et même dans le secteur informel. Donc il faut que les femmes aient le courage de venir dire ce qu'elles pensent, l'audace de la parole,
de ne pas avoir peur.
S'engager en politique, c'est accepter de participer à l'édification de la nation. Donc qu'elles acceptent de venir, pas pour venir remplir les rangs, pas pour venir grossir des rangs des hommes. Non, nous sommes déjà suffisamment nombreux, nombreuses. C'est aux hommes de venir grossir nos rangs dorénavant et nous pousser, comme on dit, nous pousser. Je remercie donc tous ces hommes qui, par mon message, se reconnaîtront et œuvrent aujourd'hui pour la réelle ou une effective, affirmation effective de la femme, que ce soit en politique, que ce soit dans la vie courante. Donc, femmes de Guinée, venez.
Madame Fini Camara, vice-présidente de la commission loi, nous sommes en période de transition, une période fragile, on se dirige vers les élections, les femmes sont des épouses, les sœurs et tout ça. Quel message dans le sens de l'apaisement aujourd'hui?
Alors, le message que j'ai toujours aimé tenir, et les femmes, nous avons connu beaucoup de pionnières en Guinée. Nous en avons connu à tous les niveaux. Mais rien, non seulement rien ne se fait sans les femmes, mais la femme, elle est vraiment la poutre maîtresse de la société.
Le baromètre.
Le baromètre. Et c'est à elle, pas qu'à elle, je dis bien, mais c'est surtout à elle que repose le soubassement de la nation. Et j'assume, je suis si fière d'être femme et de pouvoir m'exprimer en ces termes, que sans la paix, l'avenir de nos enfants, il est compromis. Et nous n'avons aucun intérêt à ce que qu'il n'y ait pas d'apaisement pour sortir d'une transition réussie. On a écouté le président, le général Mamadi, dans tous ses discours, il invite les femmes à jouer pleinement leur rôle. Et en nous invitant à cette refondation, en nous invitant à la rectification institutionnelle, c'est nous amener justement à tenir, à être conscientes de notre rôle premier, qui est de d'œuvrer en sorte que les lignes, les lois qui sont votées ou qui seront votées en faveur de la femme, que ces lignes soient de vraies lignes et que tous nos combats puisse aboutir pour un meilleur lendemain de la Guinée. Donc, apaisement, que la Guinéenne sache que c'est dans la paix qu'elle saura bâtir une nation responsable. C'est dans la paix, c'est en prenant... Ne dit-on pas que la paix est la condition sine qua non de tout développement. Et ce développement ne se passera jamais ni sans les femmes que nous sommes. Donc autant nous battre et nous investir pour que cette paix dure, pour que cette paix soit pérenne et qu'elle soit vraie.
Pour les générations futures,
présentes, exactement, pour des générations présentes et futures.
Alors, nous sommes dans le mois de la fin et moi je vais revenir sur un certain nombre de questions. Vous parlez aujourd'hui, c'est le mois de la fin. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme bilan du point de vue politique? Est-ce qu'il y a des défis que vous pourriez nous dire?
Oui. Alors, le bilan, il est...
De la Guinée en politique.
Alors, puisque j'ai le manteau de conseillère nationale, je ne suis pas forcément habilitée à parler de politique ni à faire forcément un bilan. Mais ce que je sais déjà des femmes, des femmes politiques que je rencontre et que je connais, le bilan, il est satisfaisant. Des femmes politiques, des femmes engagées, les maires, je ne voudrais pas forcément citer, parce que ce qui cite Omain, mais nous savons aujourd'hui que sur l'arène ou dans l'arène politique, des femmes sont engagées à faire bouger les lignes. On a vu plusieurs femmes qui se sont démarquées et qui sont allées jusqu'au présidentiel, c'est déjà pas mal. Et quand on prend aujourd'hui les statistiques, que ce soit au Conseil national de la transition, que ce soit au gouvernement, nous prenons aujourd'hui une égalité de chance. Et au moment où je vous parle, la question justement sur la parité, elle est là, elle est chaude. Parce que nous voulons justement que cette loi soit forcément mise en application pour que finalement les postes électifs et les postes électives soient à la portée de toutes les femmes. Que celles qui sont cachées ou que celles qui...
Des femmes capables,
des femmes, mais et comment? Que les femmes acceptent tout simplement de jouer leur rôle. Parce que notre rôle, il est connu. Quand la femme s'engage dans une chose, c'est pour la réussir. On ne s'engage jamais pour échouer une chose. Quand elle s'engage, c'est pour la réussir. Et donc, je pense que le bilan, il est satisfaisant. Moi, je suis fière des femmes en politique que je rencontre tous les jours, des femmes en politique qui nous renvoient des documents, qui nous font des plaidoyers pour faire avancer les lignes tous les jours. Et nous ne pouvons que les soutenir, les féliciter et les encourager à aller dans ce sens.
Alors, il y a un problème entre les femmes, le manque de solidarité. Je m'en voudrais si je ne pose pas cette question. En général, quand une femme a un poste de décision, on la regarde de travers, elle a de jolis talons, elle a une vilaine robe, elle est mal coiffée. Et celles qui sont arrivées à un certain niveau ne tirent pas toujours celles d'en bas. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que les femmes soient solidaires? Parce que solidaires, on peut soulever des montagnes.
Bien sûr. Oui. Alors, c'est une question qui fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Oui, on constate chez certaines qu'il y a moins de solidarité. Mais moi, ma crainte est que nous continuions à regarder que le problème et laisser la solution de côté. Moi, je pense que le diagnostic par rapport à la question de la solidarité des femmes est posé, il est connu. Pensons juste aux solutions.
Qu'est-ce qu'il faut ?
Pensons aux solutions et disons-nous clairement que chacune, il y a tellement à faire. Il y a tellement. C'est pour ça, Madame Igatou, moi je ne me tromperai jamais sur mon rôle ni sur mes tâches, ou encore moins mes attributions. Que chacune accepte de faire son travail et laisser l'autre faire le leur. Laisser l'autre faire le sien. Cette crainte, la jalousie, elle est humaine. C'est un sentiment humain. Les hommes sont plus jaloux que nous. Croyez-moi, ils sont beaucoup plus jaloux que nous et ils font des choses beaucoup plus...
C'est qu'on l'exprime différemment.
Nous les exprimons différemment parce que justement, nos hormones sont différentes aussi. On n'a pas les mêmes hormones. Il y a des hommes, par jalousie, peuvent aller jusqu'à commettre l'irréparable. Mmh. Mais la femme, elle a des hormones qui explosent.
La colère.
Par la colère, l'émotion et tout ce que vous savez. Les hommes aussi. Mais il ne faudrait pas que nous acceptions tout le temps de porter le mauvais manteau. C'est quoi porter le mauvais manteau pour moi? C'est de croire que ce problème de solidarité féminine, c'est de croire qu'il est permanent et qu'il reste. Non. Beaucoup de femmes ont compris qu'il faut forcément, sans le crier sur les toits, qu'on a besoin de juste poser un petit geste pour faire bouger les lignes. Il faut juste savoir qu'on n'a pas non plus à crier.
On a intérêt à être solidaire.
On a intérêt.
Et on gagnerait plus.
On a intérêt et on gagnerait plus. Il faut que les femmes sortent des idées préconçues ou des petits discours de caniveau.
Jalousies malsaines.
À vouloir défendre, comme on dit, ou casser du sucre dans le dos de l'autre. Ça passera forcément par la sensibilisation. Ça passera par de l'introspection. Ça passera par des mécanismes subtils, simple, où chaque personne, quand elle se sent en sécurité, elle n'a pas à faire de mal. Cette histoire de jalousie, c'est un manque de sécurité qu'on ressent. Quand on pense perdre ce qu'on a et ce qu'on détient parce qu'on la veut pour soi, on se braque contre les autres. Mais si nous pensons que nous sommes en sécurité là où nous sommes en sécurité dans notre espace, il n'y a pas à craindre.
Madame Fingy Camara, conseillère au CNT, vice-présidente de la commission loi, merci de nous avoir reçus ici aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une question qu'on n'a pas posée, un mot que vous voudrez dire avant qu'on termine.
Mais avant qu'on termine, j'aimerais vous remercier pour ce déplacement déjà et l'intérêt que vous portez à ma personne, ma modeste personne. En ce mois, des grandes femmes, il y en a, vous en êtes des exemples. Et pour la dame Igatou que j'ai connue, Madame Aïssata que je découvre, merci vraiment d'être venue et merci d'avoir m'avoir prêté donc votre micro. Et je voudrais, le petit message, c'est de demander à toutes les femmes d'accepter d'agir en sorte que le monde bouge. Parce que si les femmes baissent les bras, l'humanité s'écroulera.
Merci beaucoup.